multipolarité passe de la théorie à la réalité. Trois ou quatre très grandes économies dominent le monde des finances et des affaires économiques nationales. Une vingtaine de pays déterminent la dynamique des enjeux de paix et de stabilité. De plus, les gouvernements ne sont plus les seuls acteurs qui gouvernent ce monde. Les grandes corporations, la société civile, ainsi que la crime organisée, constituent aussi des acteurs très engagés. Les enjeux les plus urgents de ce monde complexe, par exemple le changement climatique ou la gouvernance de l'Internet, exigent des réponses qui vont bien au-delà des capacités même des plus puissants gouvernements. Pour le meilleur ou pour le pire, aucun pays ne peut plus revendiquer un pouvoir hégémonique global. Dans ce monde actuel, la coopération est plus collective, plus efficace que l'autarcie. Les principales questions de gouvernance auxquelles nous devons répondre dans ces circonstances sont les suivantes. Qu'est-ce qui doit être fait? Comment le faire? Et par qui? Les réponses devront provenir des gouvernements à travers les institutions multilatérales, avant tout à travers l'ONU. Les réponses viendront également de plusieurs groupes plus restreints, soi-disant minilatérales, comme le G20, les organisations régionales et sub-régionales et les coalitions reliées à des enjeux spécifiques. La gouvernance globale au XXIe siècle est plus complexe qu'auparavant. Ceci signifie donc que la participation du Canada dans la gouvernance globale sera primordiale si nous voulons protéger nos intérêts et promouvoir nos valeurs. Rester sur les touches, comme l'a fait le gouvernement Harper, est une prescription pour la non-pertinence. Une diplomatie active et efficace pour protéger et mettre de l'avant nos intérêts sera donc cruciale. Une gouvernance innovative globale permettra de complémenter et non pas de remplacer l'ONU et les institutions de Bretton Woods. Afin d'améliorer la gouvernance globale, on doit prendre note de ce qui a déjà été réalisé, particulièrement par les États membres qui travaillent de façon concertée à l'ONU. Nous risquons de prendre pour acquis le nombreux succès de l'ONU et de toutes ses agences. Il vaut la peine de nous rappeler que l'ONU a accompli énormément de choses dans ses premiers 70 ans. Dans l'ensemble, les États membres de l'ONU ont réussi à réaliser les principaux objectifs qu'ils s'étaient fixés à San Francisco en 1945. Pour mémoire, ces objectifs étaient premièrement de protéger les futures générations des conséquences néfastes de la guerre, ou au moins d'une guerre mondiale. Deuxièmement, de protéger les droits humains. Troisièmement, de développer une justice universelle. Et quatrièmement, de promouvoir le développement économique et social. Pour éviter les conséquences de la guerre, les États membres ont largement réussi à stigmatiser l'agression. Par conséquent, il n'y a pas eu de guerre entre les grandes puissances, au moins, depuis la guerre de Corée. Cette longue période de paix relative entre les grandes puissances résulte de plusieurs facteurs. L'éducation et d'un simple progrès humain, la démocratie, de l'intégration de l'économie mondiale, du caractère dissuasif des armes de destruction massive, de la prévention des conflits et de l'élaboration des normes internationales par l'ONU. et de la diplomatie 24/7 à New York des cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Directive 2, Human Rights. A whole corpus of conventions has been concluded. Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant of Civil and Political Rights and Economic and Social Rights, the conventions against genocide, against torture, against racial discrimination against women, and for the rights of children, to name most obvious.
Est-ce que tout le monde comprend l'anglais? Oui, ça va? OK.
These treaties are respected unevenly around the world, but over time they are being progressively assimilated into state practice. Third objective, to foster universal justice. The International Court of Justice has quietly over the years rendered landmark judgments and scores of opinions, for example, on land and maritime boundaries and on the legality of the use of nuclear weapons. UN member states have also created an extensive criminal justice system. Despite the dependence of these courts, the International Criminal Court and the tribunal, the ad hoc tribunals, on the cooperation of member countries to deliver alleged perpetrators into their custody, they have managed to bring justice to some of our time's worst human rights abusers. And last but not least, the UN system can claim a fair share of the credit for the remarkable economic and social progress the world has made in the course of three generations. The UN and its constituent bodies have concluded 45 treaties on the environment, notably the Framework Convention on Climate Change, the Montreal Protocol on Ozone Depletion, and numerous others. And it has also passed 13 counterterrorism treaties and a plethora of arms control agreements, including the agreement on the sale of arms, which the government of Canada is the only NATO member not to have signed. All told, over 500 multilateral treaties have been concluded under UN auspices, on everything from arms control to air traffic control. The member countries of the UN have thus spawned an extensive body of international law, treaties, norms, and institutions that govern most facets of international relations. In part because of the Charter and the international treaties built on the Charter, the UN has become the world's central operating system, a kind of motherboard of global governance. The UN performs its own core functions and at the same time also enables other apps to function, both within the ambit of the organization, for example, UNICEF, and beyond it, for example, NATO. NATO needs the UN to certify the legitimacy of its decisions in order to maintain public support for its actions. Absent the UN, and its universal membership and the legal framework, smaller exclusive groups, especially the G7, but also the G20 and others, would be much more controversial and probably correspondingly much less effective. The UN also makes it possible to convene governments to establish Millennium Development Goals and the post-2015 Sustainable Development Goals. Most fundamental, the UN and its charter are the rule book of international relations, and almost all states accept and understand the strictures of the charter. Mr. Putin is having a little difficulty with that. Across its full range of activities, the UN has been adapting to the times and equipping itself to equip its increasingly demanding responsibilities. Multilateral cooperation, especially through the UN, remains necessary, therefore, to the preservation of international peace and progress. But the UN, while indispensable, is not itself sufficient. Minilateralism, the cooperative conduct of international affairs by restricted groups of countries, for example, the G20, is also important, as are other innovations, such as multi-stakeholder governance, regional level cooperation and issue-specific coalitions. The G20 derived its legitimacy principally from its effectiveness, its past success, and its future potential. It has succeeded in addressing the crucial economic and financial crisis of 2008 and subsequent years. And it has put financial and banking reforms, fiscal and monetary policy coordination, and trade imbalances on the international agenda. And its legitimacy also stems from the fact that its membership accounts for so much of the world population, 67%, 75% of the world trade, and 85% of GDP. Now, these factors do not constitute universality, of course. It is important that the least developed countries are missing, as are the UN's middle powers, including some of the very constructive smaller powers, such as Sweden, the Netherlands, and Singapore. But groups with restricted membership are nevertheless important, because consensus is notoriously difficult to achieve in the UN, especially in the UN General Assembly with its 193 members. While such restricted membership groups cannot command compliance, they can commend their decisions to others, and they can bind themselves. And when the G20 reaches agreement on something, whatever problem it's addressing, it's a long way towards being resolved. Multi-stakeholder engagement is another feature of the evolving international system of governance, characterized by the full participation of non-state stakeholders in the governance forums. One variant of the multi-state stakeholder approach to problem solving was the Ottawa process on landmines, which engaged civil society and governments in cooperation. Climate change is another example of this phenomenon, involving national, subnational, and city governments, university and private sector scientists, energy, transportation companies, wildlife organizations, and so on, including ordinary citizens. The solutions need to be acceptable to all, but the path to such solutions often runs through restricted groupings. That, by the way, is not an article of faith at the UN. Internet governance is a further emerging multi-stakeholder issue. As with climate change, internet governance entails state and non-state actors working together. Competing for influence in this world are artistic or intellectual content providers, technology companies like Google, Amazon, and eBay who provide the service, business and commercial interests who use the internet, including banks and credit card companies, development cooperation activists, proponents of free speech, hackers, law enforcement agencies, and government authorities, some who want to keep the internet free, and others who want to constrain it. Such innovations complement the United Nations, but they don't supplant it. L'ONU a-t-il les problèmes des scléroses d'une institution de 90 ans?
70.
70. Excusez-moi. C'est moi qui... Il est important à souvenir que malgré tout, beaucoup a été accompli par l'ONU à travers l'ONU. Dans une ère d'information continue et de circulation rapide et répétée de mauvaises nouvelles, il est facile d'oublier le progrès qui a été réalisé. Notre monde s'est transformé de façon dramatique, surtout de façon positive, malgré les réalités brutales du terrorisme, la perte de la vie de vie dans les guerres civiles comme en Syrie et les mouvements immenses de réfugiés qui ont lieu. Grâce en partie de l'ONU et à ses États membres, nous sommes presque tous en santé avec une plus grande espérance de vie, mieux nourris, mieux éduqués et informés, mieux connectés, plus riches et plus en sécurité. L'ONU nous a apporté davantage d'ordre, de prévisibilité et du progrès au niveau global, et davantage de modernité, de sécurité et de dignité. Mais les temps changent et exigent de plus en plus de nouvelles formes d'alliances et de coopération au niveau multilatéral, minilatéral, régional et bilatéral, parmi les divers secteurs, incluant le gouvernement, la société civile, le secteur privé et les pauvres citoyens. Même si l'ONU ne peut pas elle-même répondre à tous ces besoins, elle demeure néanmoins indispensable en termes de droit international, de gouvernance et de progrès. Comme le disait l'ancien secrétaire général Kofi Annan, l'ONU n'est pas une organisation parfaite, mais c'est la seule organisation qui a le pouvoir de rassembler le monde entier sous un même toit pour discuter d'enjeux communs. Elle tente de maintenir les normes qui nous permettent de vivre en paix. Qui d'autre est capable d'en faire autant? Merci.